Vous êtes avec SBS French.
J'ai le plaisir de parler à Patricia Tomasi, responsable de la coopération avec la France au sein du gouvernement de l'Australie méridionale. Bienvenue sur les antennes de la radio SBS, Patricia.
Merci beaucoup, Bertrand. Je suis enchantée d'être avec vous.
Nous nous rencontrons aujourd'hui pour parler d'un sujet particulier, l'exhibition d'art aborigène de l'Australie centrale, donc des Apu Islands, en Australie méridionale, une exposition qui va s'ouvrir en France la semaine prochaine, et plus spécifiquement en Bretagne. Parlez-nous de cette exposition.
Bertrand, c'est une exposition absolument magnifique, unique, et ce dont nous sommes très fiers, qui a eu la chance, en dépit de cette pandémie mondiale, nous avions la chance de réaliser, de concrétiser ce projet avec nos amis et collègues de Bretagne. L'exposition en elle-même contient 28 peintures, qui sont des peintures de taille très large, très impressionnantes. 32 photos noires et blancs d'artistes aborigènes, ce qui donnera aux visiteurs un lien direct entre la peinture et la personne ou entre le groupe d'artistes, mais aussi des vidéos et des lances. Et les lances représentent un projet culturel très particulier pour ces communautés aborigènes.
Et ces lances, donc, c'est non seulement des objets guerriers, c'est des armes. Dans le contexte de cette exposition, selon les artistes, ça symbolise aussi une bataille pour la préservation de leur culture, de leur langue et de leur patrimoine historique et culturel.
Eh bien, le projet dans les Landes Apy, dans les terres Apy, les terres aborigènes, a commencé au début des années 2010. Oui. Et c'est un projet qui a permis aux communautés, en effet, de non seulement partager un outil qui était un outil traditionnel de chasse et de guerre, mais aussi cet outil est devenu un symbole de transmission de la culture aborigène avec les autres. Ça permettait d'expliquer, de partager non seulement une culture traditionnelle, de la partager entre les générations d'artistes, mais aussi de la partager avec autrui. Donc c'est un vecteur de l'art aborigène. Et pour nos amis bretons, nous avons envoyé ces lances avec, bien sûr, une explication pour que ce récit, ce message, soit transmis aux visiteurs bretons du Musée des Beaux-Arts de Rennes.
Revenons-en à la Bretagne encore une fois. Pourquoi la Bretagne, spécifiquement la Bretagne?
Alors, l'Australie méridionale, l'État de l'Australie méridionale a des très bonnes relations avec la France, surtout des relations très proche avec la Bretagne. Nous avons signé il y a 3 ans un accord de partenariat, un partenariat qui se décline sur différents secteurs, notamment la défense, l'éducation, la science. Et très particulièrement, nous avons eu beaucoup de succès dans le domaine de l'art et de la culture. L'art et la culture, très souvent, sont des vecteurs qui transcendent les langues, qui permettent de connecter des peuples qui, bien que de traditions complètement différentes, peuvent se comprendre. Et c'est pour ça qu'avec cette exposition d'art aborigène, c'était notre intention de pouvoir exposer les visiteurs de ce musée à des traditions, à une culture complètement différente.
Quand on voit l'art aborigène ou la culture aborigène d'un point de vue d'un immigré ou même de l'étranger, ce qu'on voit souvent, ce sont des peintures avec des petits points, mais c'est une culture beaucoup plus vaste, ce sont des peintures. Il y a plusieurs genres et le genre du centre est un peu moins connu de l'étranger. Donc, à mon avis, opportun de pouvoir le présenter à une audience européenne. Et si je comprends bien, c'est la toute première fois aussi que cette exposition a lieu, non seulement en Bretagne, mais en Europe aussi.
C'est une occasion absolument fantastique de découvrir ces artistes, leur tradition et également la signification de leur peinture. L'exposition sera accompagnée d'un catalogue qui fait à peu près 300 pages, je crois, qui est traduit, donc le catalogue est en 3 langues, en français, en anglais et en Pitjantjatjara, qui est la langue des artistes, avec aussi un lexique de mots utilisés par les artistes, donc des mots qui sont très présents dans leur récit. Ce lexique est également traduit en breton. Chaque artiste a été enregistré et nous a raconté le but, l'origine ou quel est le récit qui est exprimé dans leur peinture. Donc, ça permettra aux visiteurs de vraiment comprendre qu'est-ce que ça représente, quelles sont donc les couleurs, la structure de la peinture. Ils pourront peut-être, je pense, eux-mêmes se transporter au pays APY des artistes aborigènes.
Est-ce qu'il y a un artiste en particulier ou des artistes dont vous pourriez nous parler de l'importance de leurs œuvres ou qui sortent du lot?
Il y a un artiste qui fait partie qui est un collègue des artistes qui viennent à Rennes, Vincent Namejira, qui fait partie de ces centres d'art collectifs dynamiques du APY Land. Vincent Namejira vient de remporter un prix national en Australie pour une de ses œuvres. Et je pense que sa renommée va, d'ailleurs nous avons transmis cette information à nos collègues de Rennes, la renommée de cet artiste, en fait, est partagée avec tous ses collègues, avec toutes les autres personnes de sa communauté à Rennes. Donc, les aborigènes, en général, travaillent de façon collective. Ils peuvent collaborer à plusieurs sur une peinture, mais ils partagent aussi beaucoup les succès. Donc, ce n'est pas seulement le succès d'une personne, c'est le succès d'une communauté. Donc, en ce moment, il y a vraiment un projecteur sur nos communautés du nord de l'Australie méridionale et ça fait très chaud au cœur.
Vincent fait aussi partie de la famille de Namejira, qui sont dont la descendance donc remonte à plusieurs générations, et un de ses aïeuls, si je puis dire, est aussi connu pour les guerres, pour les droits des aborigènes, les guerres, les combats, la lutte pour les droits des aborigènes. Donc, pas seulement un artiste, mais aussi une figure historique dans le droit des aborigènes.
Oui, c'est une famille très importante pour notre communauté.
Pour revenir à l'organisation d'une exposition en 2020, une année particulière, une année pas comme les autres, du jamais vu sur le plan planétaire, une année de pandémie de Covid, comment est-ce que vous avez réussi à mettre au point une telle exposition sur deux continents, rassembler les artistes, les œuvres d'art, en période de pandémie, surtout que non seulement vous, là où vous êtes en Australie méridionale, les distances sont immenses, plusieurs fois la superficie de la France, et maintenant rassembler ces artistes et leurs œuvres. Et de l'autre côté du monde, de l'autre bout du monde, quels ont été les défis que vous avez rencontrés? Comment est-ce que vous les avez relevés?
C'est assez complexe. Néanmoins, je vais commencer par le début. Nous avons une chance incroyable qui était l'année dernière de nous rendre à Rennes et de rencontrer nos collègues. Donc déjà, nous avons pu établir une relation humaine, partager notre enthousiasme, partager la beauté de ces peintures par des images. Et le musée des Beaux-Arts a été vraiment très intéressé dès le départ. Donc, nous avons pu transcender ces défis initiaux qui étaient différence de langue, en effet, différence au point de vue différences d'heures entre France et l'Australie. Donc, déjà pour la communication, ce n'était pas toujours évident. C'est des œuvres qui devaient voyager aussi vers la France. Donc, il y avait beaucoup de paramètres assez extrêmes dès le départ. Et puis, en effet, la pandémie qui est arrivée, les choses se sont vraiment compliquées. Au début, bien sûr, une délégation d'Australie devait venir avec avec les œuvres pour l'ouverture de l'expo la semaine prochaine. Bien sûr, ça ne sera pas le cas. Nous ne serons pas à Rennes et nous en sommes vraiment désolés. Mais ça avait aussi une portée sur le voyage des peintures elles-mêmes vers la France qui devait être accompagné par des personnes. Donc, nous avons complètement transformé le projet pour l'adapter. Et c'est là que mes collègues de la AXA et mes collègues de Bretagne ont été fantastiques, très souples dans leur approche du projet. Et c'est pour ça que nous avons identifié des œuvres qui pouvaient voyager seules par freight. Nous avons eu bien sûr des coûts de voyage pour de freight qui ont été énorme par rapport à ce qui avait été budgété initialement. Quelque part, ça a été difficile, mais d'un autre côté, le résultat n'en est que plus beau et nous en sommes extrêmement fiers. Ce que j'aimerais vraiment partager, c'est notre passion pour l'art aborigène. Si vos auditeurs peuvent aller un jour visiter cette expo ou en parler à des amis, à leur famille et inciter les gens à aller voir cette exposition, c'est une collaboration sur de deux continents, c'est une collaboration de deux cultures complètement différentes. C'est au niveau de point de vue des langues traditionnelles. C'est magnifique, c'est vraiment fantastique.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.